10h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-Luc Lemoyne qui est notre invité. On revient à son actualité dans un instant, Philippe. Mais avant, on va parler cinéma avec Mathieu Charrier.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Jamais je n'aurais imaginé cela de vous. Beaucoup de sorties cinéma cette semaine et vous démarrez avec l'événement Disney, la suite de La Reine des Neiges.
Bien sûr, alors je ne vais pas vous faire réécouter Libéré, Délivré pour éviter que tout le monde me déteste.
Dommage.
Mais je vais vous faire écouter la chanson qui remplace Libéré, Délivré. Ça s'appelle Dans un autre monde. Vous remarquez, il y a toujours cette espèce de montée crescendo là pour bien qu'on retienne la musique. On verra si vous l'avez en tête jusqu'à ce soir. Alors l'histoire, nous sommes de retour au royaume d'Arendelle avec Anna et Elsa. Elsa qui entend une voix dans sa tête, c'est l'appel de la forêt, où elle va découvrir que la nature et les éléments qui la composent se sont complètement déréglés. L'ordre a été brisé, vous découvrirez pourquoi. Et si Elsa veut sauver son royaume et les siens, elle va devoir utiliser ses super pouvoirs de glace. Elle part donc en expédition avec bien sûr sa sœur Anna, son prince, le reine aussi très drôle, et le bonhomme de neige, Olaf, dont Danny Boone fait une nouvelle fois la voix française. Et c'est lui aussi qui incarne un petit peu le côté militant du film. Écoutez.
Oh, je trouve que c'est toute l'histoire, moi, qui milite pour la nature, du fait que l'homme, s'il n'est pas en harmonie avec la nature et s'il ne la respecte pas, il se la met à dos et la nature se venge. C'est un peu ce qui se passe avec le réchauffement climatique et on voit le dérèglement des saisons. Le film parle de ça en filigrane, mais en tout cas, ça éveille à ça. Ouais.
Alors, qu'est-ce que vaut cette Reine des Neiges numéro 2, vous allez me demander? Eh bien, la même chose que la Reine des Neiges numéro 1, c'est-à-dire que vous allez avoir des enfants enchantés, des parents qui passent pas un mauvais moment, même s'ils en ont un petit peu marre des chansons à la fin du film. Bref, c'est le Disney de Noël idéal.
Dans un tout autre style,
oui,
Les Misérables, film coup de poing de Lajli, prix du jury au dernier festival de Cannes.
Et qui représentera la France dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger. Alors je vais vous dire, ce film, moi je l'ai découvert à Cannes, j'en ai toujours énormément d'images en tête. C'est enfin le grand film de banlieue que l'on attend depuis La Haine. L'histoire, ça commence sur les images de l'euphorie et de l'Union nationale au moment de la victoire de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Et puis l'image d'après, eh bien, c'est Stéphane, nouveau policier, qui intègre la BAC de Montfermeil avec Chris et Guada, c'est ses deux coéquipiers des anciens, eux. Il va être confronté aux tensions entre les bandes du quartier. Et puis surtout, un jour, un drone dirigé par un petit gamin va filmer l'une de leurs bavures. Alors il y a un suspense, il y a du romanesque dans ce film, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la banlieue d'aujourd'hui abandonnée, où les seuls finalement qui ont encore un semblant de lien avec la jeunesse, ce sont les imams. Lajli, le réalisateur, vit toujours à Montfermeil. Écoutez.
On est à plus de 40% de chômage dans ces quartiers. Les écoles publiques, elles sont totalement pourries, il faut le dire, c'est important. Donc c'est pour ça, moi j'ai axé le film sur l'enfance. C'était important de raconter l'enfance dans ces quartiers difficiles. Qu'est-ce que nos gamins vont devenir? Aujourd'hui, je suis père des familles, j'ai des enfants. Je me pose plein de questions. Je me dis, qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est que d'être un enfant qui va évoluer dans cet univers? Et on sait tous que quand on arrive dans ces quartiers, bon, malheureusement, on a moins de chances de s'en sortir. Et comme je dis, c'est pas un film anti-flic, ni un film anti-banlieue. C'est ma vie quelque part que je raconte. C'est la vie de ses habitants. C'est la vie de mes proches, de ma famille. Tout est vrai dans le scénario. On n'a rien inventé. Tout est inspiré de vrais faits.
Alors Emmanuel Macron a vu le film, il lui a demandé dans la foulée à ses ministres de proposer des choses pour la banlieue. Moi je vous dis, c'est effectivement Les Misérables, un film utile évidemment, mais c'est aussi un grand film de cinéma, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir.
Et puis votre troisième coup de cœur de la semaine Mathieu, c'est un premier film, il s'appelle Les Éblouis.
Signé Sarah Souko, une actrice que vous avez déjà vue dans des seconds rôles et qui passe derrière la caméra. Alors elle raconte l'histoire d'une radicalisation, mais pour une fois dans le milieu catholique. La jeune Camille a 12 ans, elle est passionnée de cirque, elle est d'une famille nombreuse. Un jour ses parents intègrent une sorte de communauté dirigée par Jean-Pierre Darroussin dans le film. La maman est jouée par Camille Cotin. Alors au début, c'est une communauté d'entraide, rien de mal, tout se passe bien. Mais petit à petit, on leur demande de donner leur bien, de donner leur argent. Ses parents disent à Camille qu'il va falloir qu'elle abandonne le cirque parce que ça colle plus vraiment à leurs principes. C'est le début d'un engrenage, d'une radicalisation. Cette histoire, c'est aussi celle qu'a vécue l'actrice et réalisatrice Sarah Souko.
D'extérieur, quand on ne connaît pas, on se dit « Oh là là, les sectes, c'est le temple du solaire, les gens sont cons, pourquoi ils rentrent là-dedans » Alors qu'en fait, au contraire, c'est toujours des lieux très attractifs. Ce sont souvent des gens très brillants qui rentrent là-dedans. C'est juste des gens qui ont des fragilités, des faiblesses à des moments de vie, mais qui n'en a pas. Et voilà, du coup, pour moi, c'était très important de montrer effectivement les côtés bénéfiques et positifs de ces endroits-là et de comprendre qu'ils y rentrent pour ces raisons-là et malgré ce qu'ils peuvent commencer à voir qui est dangereux. Et c'est cette ambiguïté permanente, ce paradoxe, notamment chez le personnage du père qui va rester jusqu'au bout, qui fait qu'on peut aussi comprendre que cette adolescente, hein, puisque tout passe par son regard, va toujours défendre ses parents.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce phénomène d'embrigadement pour une fois dans un milieu différent de celui de l'islam, mais on se rend compte finalement les mécanismes sont toujours les mêmes. Salons quand même la prestation de Darousse, hein, de Cotin, de la jeune Céleste Brunkel aussi qui joue Camille, tout en sobriété. C'est un film qui m'a saisi, moi que j'avais découvert au dernier festival d'Angoulême, et vraiment, il faut aller le voir au milieu de toutes ces sorties, il ne faut pas le louper.
Et puis d'un mot, Joyeuse Retraite, on voit des affiches partout avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque, ça vaut quoi?
Un petit peu déçu, l'idée de départ elle est géniale, hein. C'est Larocque et Lhermitte qui prennent leur retraite, ils veulent partir se la couler douce au Portugal, sauf que c'était sans compter sur leur famille qui, elle, compte bien leur refiler les gamins de temps en temps, gérer les petits-enfants, la crise de couple de leur fille, etc., etc. Le petit problème, c'est qu'assez vite, le film s'essouffle, il y a des gags récurrents qui ne sont pas très drôles, c'est dommage, donc c'est pas un mauvais moment, hein, passe pas un mauvais moment, mais c'est quand même une petite déception, c'est pas incontournable au milieu de toutes les belles sorties dont je vous parlais.
Merci beaucoup Mathieu Charrier, Jean-Luc Lemoyne, un film qui vous tente?
De toute façon, au bout d'un moment, j'ai plus le contrôle, hein, je vais me taper la Reine des Neiges.